Allez, on va changer de sujet parce qu'on va pas vous mettre d'accord. Enfin, cela dit, c'est le principe d'un débat. Je voudrais vous parler du PS parce que là, ça vire quand même au sketch. On a eu tout à l'heure le sénateur PS Rachid Temal qui nous disait qu'il avait fait partie de cette commission de récollement, que la direction du PS est arrivée en plein milieu en disant « Écoutez, voilà, c'est terminé, on va faire un communiqué de presse et on a promu à nouveau Olivier Faure en tant que premier secrétaire du PS, sachant que ce que nous disait, il n'est pas le seul, Rachid Temal, je crois qu'il y a Philippe Doucet aussi qui parle de ça, qui dit que ça a été arrêté en plein milieu. Enfin, allez-y, Jonas, venez à mon secours. C'est quand même. Non, j'ai plus de mots. Enfin, honnêtement, je croyais que ça n'existait plus, des trucs comme ça.
C'est petit baron noir. Vous voyez, parce que j'ai regardé récemment sur les réseaux sociaux. Je connais bien Philippe Doucet par ailleurs parce qu'il m'a été donné de débattre avec lui. Il a montré sur les réseaux sociaux le bourrage des urnes. Enfin, on est en 2023. Il y a une vidéo dans laquelle vous voyez à la Courneuve des militants socialistes qui rentrent, qui s'enferment avec une urne. Et qui en ressortent avec des urnes bourrées. Vous avez aujourd'hui deux premiers secrétaires du Parti Socialiste, donc M. Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol, que je connais bien puisqu'il est maire de Rouen et président de la métropole de Rouen, qui s'affrontent et qui chacun disent finalement qu'ils sont premiers secrétaires. Et enfin, dernier point, à la rigueur, je dirais, je suis quasiment nostalgique des années Martine Aubry et Ségolène Royal parce qu'ils se battaient pour une véritable structure qui était l'alternative à la droite de l'époque.
Là, aujourd'hui, il y avait un enjeu.
Là, aujourd'hui, on parle de 20 000 militants.
Ouais, 23 700.
C'est-à-dire beaucoup moins que les Républicains, beaucoup moins même que Reconquête, beaucoup moins que le RN, beaucoup moins que En Marche.
Avec aucune option de prendre le pouvoir à la prochaine élection.
Mais qu'ont-ils fait, honnêtement, qu'ont-ils fait du parti de Jaurès et de Blum, hein. C'est la vraie question. Et quand ça se termine comme ça, moi, je pense que pour le coup, il faudrait. Passer directement, là on était en redressement, il faut passer en liquidation. Parce que là, la situation est irrémédiablement compromise.
William T.
Bon, j'espère qu'ils ne vont pas diviser le parti en deux, parce que vu le score d'Anne Hidalgo, il ne resterait plus grand-chose. Je pense que le point essentiel, lorsque vous menez une élection interne, il est important d'avoir la direction sortante, et il n'est pas important de savoir qui vote, mais qui compte les votes. Parce que quand on regarde les derniers scandales, on a vu que Martine Aubry avait gagné en 2008, mais c'était elle qui comptait les votes dans la Fédération du Nord. On a vu qu'en 2012, Copé avait battu Fillon et c'était lui qui comptait les votes. Et après, en 2023, c'est Olivier Faure qui comptait les votes. Et à chaque fois, bizarrement, il gagne sur le fil. Donc je pense qu'il est important lorsqu'on
en fait, c'est comme si à l'élection présidentielle, c'était Emmanuel Macron
qui comptait les votes. Voilà. Donc je pense qu'il y a un point dessus. Il y a des vrais points de suspicion. Moi, j'ai interrogé pas mal de personnes qui, évidemment, vous répondent de façon anonyme. Ils disent qu'il y a des problèmes dans au moins 3 ou 4 fédérations, à minima. Donc, à peu près, tout le monde le sait. Après, on ne sait pas si pour autant, Faure n'aurait pas gagné. Ça, c'est difficile de savoir, parce que quand on n'est pas à l'intérieur, on ne peut pas faire de suppositions. Je pense que ça pose la question aussi de l'avenir du Parti Socialiste en termes de ligne. Notamment de l'avenir, je pense, plus précis au-delà du Parti Socialiste, du courant social-démocrate qui existe en France et qui n'aura plus de représentants en 2027 dans la mesure où Emmanuel Macron ne sera pas candidat. Emmanuel Macron avait permis de réconcilier le centre-gauche et le centre-droit dans l'offre, à peu près, une offre atypique que proposait Bayrou en 2007. Mais aujourd'hui, quand Emmanuel Macron on ne sera plus là, vous n'aurez plus de candidat social-démocrate. Donc moi, je pense qu'il y a une première possibilité, c'est que Faure reste président du parti, enfin premier secrétaire du Parti Socialiste, et qu'ensuite, après ce qui reste du courant hollandais, Cazeneuve, construise une offre social-démocrate. Moi, je pense qu'on a besoin d'un courant social-démocrate. Je pense que ce qui compte plus que tout, ce n'est pas les partis, ce sont les idées et les courants d'idées. La social-démocratie est un courant important qui a structuré avec la démocratie chrétienne, l'Union européenne, à travers cette grande alliance qui avait permis quand même de construire de belles avancées. Et je pense que c'est ça l'essentiel, au-delà de la question des idées.
Qui sont les social-démocrates aujourd'hui en France?
Moi, je pense qu'il y a deux courants de pensée qui ont toujours traversé les socialistes. On le sait depuis la fameuse répartition de la SFIO. Il y a le courant qui est plutôt anti-révolutionnaire, qui est social-démocrate, qui a été porté par Jaurès, par Blum, par François Mitterrand.
Mais aujourd'hui, qui sont les sociaux-démocrates
aujourd'hui?
Est-ce qu'Olivier Faure est un social-démocrate?
Non. Les représentants, c'est plutôt Cazeneuve, Hollande, etc. C'est ça les...
Mais les héritiers de Cazeneuve et Hollande...
Bah, ça dépend, c'est qu'eux vont former. Et ce n'est pas exclu que Hollande n'y retourne pas en...
Mais est-ce que, par exemple, un territoire de progrès, qui est la gauche de la Macronie, est-ce qu'il y a des sociaux-démocrates?
Il y a peut-être Attal, il y a peut-être... j'ai oublié son nom, excusez-moi, le ministre en charge des transports, qui est ancien conseiller européen d'Emmanuel Macron.
Clément Beaune,
merci beaucoup. C'est ça qui représente le courant social-démocrate. Et ensuite, après, il y a un autre courant qui est porté plutôt par Olivier Faure, qui porte davantage un programme révolutionnaire et qui va aller vers la NUPES. De toute façon, Manuel Valls l'avait théorisé, ce sont deux gauches irréconciliables lorsqu'il était Premier ministre. Et ces deux courants-là ont coexisté au sein du Parti Socialiste alors qu'ils n'ont plus rien à voir en commun. Ils ne sont pas d'accord sur l'économie, dans la mesure où il y a un parti qui est davantage social-libéral, porté par une politique de l'offre, qu'une politique de la demande, à la différence de Mélenchon. Ils ne sont pas d'accord sur la laïcité. Manuel Valls avait porté des sujets qui étaient très clairs sur la laïcité, alors que le Parti Socialiste, tout ce qu'il en reste maintenant, est davantage communautaire.
Après, il y a
sur l'Europe,
il y a une question de légitimité aussi électorale. C'est-à-dire que quand on fait, comme vous dites, 2,1 à la présidentielle, on n'est plus audible. Donc, ils peuvent porter des idées,
mais moi, je pense qu'on se trompe en portant trop la question uniquement sur le volet électoral. Il ne faut pas oublier que sur
l'offre... On se trompe peut-être, mais c'est comme ça,
Emmanuel
Macron. Toujours été comme ça.
Il y a 30% des électeurs d'Emmanuel Macron qui sont des anciens électeurs de Hollande. Et donc, du coup, ce courant existe encore électoralement. Et
je pense que le
point essentiel peut avoir encore un avenir si par cas, il retrouve des idées, une nouvelle personnalité. Je pense que les partis politiques peuvent mourir, mais pas les courants de pensée.
Jonas Sadel.
Le rôle du Parti Socialiste jusqu'à présent, c'était de maintenir un certain nombre de députés au sein du Parlement. Et donc, en fait, le job d'Olivier Faure, ça a été de vendre son âme, je dirais pas au diable, mais en tout cas à ce qu'était la NUPES, c'est-à-dire en gros une création chimérique.
Ça y est, vous parlez au passé ?
Oui, parce qu'ils ont dit qu'ils ne recréeraient pas de liste ensemble. Donc, je pense que voilà, et en fait, ils avaient besoin absolument de se sauver. Et pour se sauver, ils ont vendu ce qui restait du Parti Socialiste. Et donc en ça, je pense qu'il y a aussi une partie des militants socialistes qui, dans le fond de ce qu'ils sont, se sont dit quand même, on a quand même bradé ce qu'on était. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à un 50-50, parce qu'en fait, normalement, si vous regardez toutes les histoires, les sortants sont assez souvent reconduits. Parce que d'abord, ils verrouillent, et deuxièmement, parce qu'ils ont une légitimité à créer. Nicolas Maillard-Rossignol, c'est pas quelqu'un qui est extrêmement connu du grand public, et pourtant, il a réussi à faire quasiment jeu égal avec Olivier Faure. Mais parce que je pense qu'il y a des gens qui se sont sentis très brusqués dans le fait qu'on envoie le Parti Socialiste avec des gens de la NUPES. Regardez la position des gens de la NUPES depuis la semaine dernière sur ce que c'est que la réforme des retraites. Pour eux, la réforme de retraite n'est qu'un prétexte pour certains dire ils vont couper l'électricité, pour d'autres on va faire la chasse aux riches. Mélenchon dit aujourd'hui quand même dans une manifestation « Monsieur Macron, soyez maudit ». Enfin, je veux dire, on est dans une sorte d'hubris d'extrême-gauche et un certain nombre de gens qui sont foncièrement socialistes doivent se rendre compte que quand même, ce n'est pas convenable de frayer avec ces gens-là.
En tout cas, celle qui tient, entre guillemets, la gauche, pas plus tard que cette semaine qui vient de passer, c'est Marine Tondelier qui est revenue sur un discours, j'allais dire, totalement radical de la gauche en reprenant les thèses anticapitalistes contre les milliardaires, OMT.
C'est pour ça que moi je parlais des deux courants de gauche, le courant plutôt révolutionnaire qui était le Parti communiste de l'époque et le courant plutôt social-démocrate. Là, ce qu'on voit, c'est de toute façon, la NUPES se dit que tant qu'Emmanuel Macron est là, l'espace social-démocrate est bouché et donc du coup, ils ont intérêt à radicaliser le speech pour mobiliser davantage de gens pour aller dans les rues. Et ça a fonctionné. Jeudi, il y avait quand même plus d'un million de personnes dans les rues. Donc ça fonctionne. Moi, je pense que là où ils auront un point essentiel, c'est que ce courant-là ne peut pas être majoritaire dans le pays. Ils auront un problème stratégique majeur. D'une part, ils ne peuvent pas être majoritaires. Et en plus, il apparaît...
Là où je tique, William, c'est quand vous dites « Ah, bah, de toute façon, le courant social-démocrate est pris, d'une certaine manière, et squeezé par, justement, une partie de la Macronie. Oui. » est-ce qu'il n'y a pas un rôle à jouer en disant voilà, on pense la même chose mais on le dit autrement?
Justement, moi je pense qu'en fait, là où il se trompe, c'est que comme Emmanuel Macron ne sera plus candidat en 2027, et vraisemblablement l'espace social-démocrate va s'ouvrir de nouveau et je pense que c'est un courant intéressant pour le pays. C'est quand même la social-démocratie française, mais social-démocratie européenne a permis la progression des droits sociaux, a permis certaines avancées sociales, etc. Notamment, ils ont permis de compléter ce qu'on appelle l'État-providence à l'époque porté par Roosevelt et par le New Deal. Donc, ils ont un courant et ils ont un intérêt pour la France. C'est pas pour autant que je partage toutes leurs idées, mais en tout cas, ils ont une utilité pour le pays. Et je pense qu'il est important, au-delà du Parti Socialiste, que ce courant là se porte. Ensuite, après, sur la tactique de Marine Tondelier, ils sont sur la même tactique que Rousseau, que Jean-Luc Mélenchon.
Oui.
Je pense qu'ils sont sur la même logique, c'est-à-dire de radicaliser le speech afin de sécuriser...
Mais ça dépend sur quel thème ? Ça dépend. Non, mais...
sur l'économie, sur l'écologie, sur
surtout,
son tentative en fait. De radicalisation.
En fait, surtout, mais moi, je pense que Sandrine Rousseau, et ça va vous choquer,
Sadad,
a raison.
Sur
notamment le fait que lorsqu'elle pose, pendant la réforme des retraites, en dessous d'une pancarte, Sardou, ta gueule, pardon d'être vulgaire.
Mais c'est-à-dire qu'en vous n'aimez pas Michel Sardou.
Non, parce qu'elle assume totalement sa radicalité. Elle montre bien que la réforme des retraites, ils n'en ont rien à faire. Quand vous avez M. Martinez qui dit qu'il va couper le courant, un des patrons de la plus grande centrale syndicale en France, le courant chez les élus, pour certains, chez d'autres, chez les châteaux des milliardaires.
Oui.
Deuxièmement, non mais est-ce qu'on se rend compte de la violence
et c'est pas la première fois qu'on a ce genre de discours.
Oui, mais imaginez un instant que des gens qui soient je dirais, à la droite de la droite, tiennent ce genre de propos, mais on serait horrifiés.
Mais on a été horrifiés par le passé aussi.
Mais personne n'est horrifié. Quand je vois que M. Dupont-Aignan, par exemple, va à la manifestation joindre sa voix contre la réforme des retraites avec des gens qui tiennent de tels propos, enfin, je veux dire, à un moment, est-ce qu'on va se réveiller ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hubris parce qu'un certain nombre de personnes s'opposent à la réforme des retraites, de laisser un tel discours d'ultra-gauche devenir mainstream ?
Mainstream ou inaudible, parce qu'on a déjà entendu ça par le passé, parce que d'autres figures... Vous êtes plus jeune que moi, mais d'autres figures par le passé ont eu également ce genre de discours et qu'on se dit qu'après tout, c'est leur fonds de commerce et c'est leur storytelling, c'est leur narratif, comme dirait William Tay.
Où est la condamnation unanime de tous les autres partis ?
Mais parce qu'on laisse couler.
Mais ce n'est pas normal. Et moi, je dis, bon, on est dimanche, on essaie peut-être de remettre les choses à l'endroit pour la semaine qui vient. Juste cette semaine, ne laissons pas couler ce genre de propos. On est dans le pays...
Vous avez raison de le dire.
On est dans un pays qui a inventé le droit de propriété, qui est une de garantie. On parlait de la Révolution française. Ils sont révolutionnaires. La Révolution française, ça tient sur le concept de propriété. Donc, on ne remet pas en cause comme ça le droit de la propriété des gens qui ont bossé. Et moi, je le redis, eux, ils veulent moins de riches, ils veulent moins de milliardaires. Quand on est un responsable politique normal, on veut juste moins de pauvres. On fait pas la chasse aux riches. Voilà, c'est pas une façon de faire de la politique.
Eh bien, ça méritait d'être souligné. Merci, Jonas Haddad. Merci, William Tay. Dans un instant, le journal de 19h, juste après la Fashion Week, avec Alexis Mabi et Jean-Charles de Castelbajac. Et le panorama, tout à l'heure, à 19h30, sur la musique des années 80, qui, sans le savoir, est devenue un totem. Exemple tout dernièrement avec Madonna. Madonna annonce 2 dates à Paris. Qu'est-ce qui se passe ? Toutes les places sont vendues et ce sont les jeunes notamment qui se jettent dessus. À tout